Je vous invite à trouver l'évangile de Luc et le chapitre 9. L'évangile de Luc, chapitre 9, premier verset. Luc 9, premier verset. Jésus appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Hérode le tétrarque apprit tout ce qui se passait et il était perplexe, car les uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Alors qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à voir Jésus. Voilà le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Et on peut diviser ces 9 versets en 2 parties bien distinctes. De versets 1 à 6, on peut résumer ces 6 versets par un mot, le mot « autorité ». Du verset 7 à 9, on peut résumer ces 3 versets avec un mot « autorité ». Verset 1 à 6, il est question de l'autorité de Jésus, l'autorité du Christ, l'autorité qu'il donne à ses disciples. Du verset 7 à 9, il est question de l'autorité de Hérode, le roi Hérode, où on peut dire « Il ne s'agit pas trop de l'autorité, mais de l'abus d'autorité de ce roi, qui avoue sans problème, c'est moi qui ai fait tuer Jean-Baptiste. Il y a une autre façon de résumer ces versets. On peut résumer versets 1 à 6 par le mot « identité ». L'identité du Christ. Jésus savait qui il était. Il n'y avait aucun flou. Il n'y avait aucune incertitude dans son esprit. Il savait qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Versets 1 à 6, identité. Mais on peut résumer les versets 7 à 9 par le mot identité. Parce que Hérode, il est perplexe. Mais qui c'est cet homme dont on parle? Il ne comprenait pas, mais qui est Jésus? Il se posait des questions sur l'identité de Jésus. Il est intrigué. Est-ce qu'il s'agit de Jean-Baptiste qui est revenu à la vie? Est-ce qu'il s'agit de Élie, prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui serait revenu sur terre? Est-ce qu'il est question d'un autre prophète ressuscité ou réincarné? Il ne savait pas qui était Jésus. On peut résumer ces versets d'une autre manière. Versets 1 à 6, un envoi. Jésus envoie ses disciples, il les envoie en mission pour parler de lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Les disciples sont mandatés, commissionnés par Jésus pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Un envoi. Des versets 7 et 9, on peut résumer ces versets avec... Ah, je vous ai eu, hein. Une envie. Hérode a envie de rencontrer Jésus. Et plus tard, on en parlera, parce qu'il rencontre Jésus la veille de la mort de celui-ci. Mais je propose une quatrième voie. Versets 1 à 6, évangélisation. Il est question de l'évangélisation. Et versets 7 à 9, le mot clé, c'est le mot clarification. D'accord ? Évangélisation, clarification. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et j'espère que je ne serai pas lapidé sur le parking de l'église à la fin du culte pour ce que je vais vous proposer. Je propose de prendre le verset 7 à 9 d'abord, et ensuite le verset 1 à 6, pour clarifier quelque chose, et ensuite pour parler de l'évangélisation. Si vous êtes d'accord, restez assis. Merci, vous êtes tous d'accord. Très bien. Clarification. Alors, pourquoi est-ce que je parle de clarification? Parce qu'il est question d'Hérode dans ce texte. Et dans le Nouveau Testament, on parle de plusieurs Hérodes. Alors, et il est question d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'était le bâtisseur du temple. C'était le roi d'Israël à l'époque de la naissance de Jésus. C'est lui qui a fait l'édit, on doit tuer tous les garçons de moins de 2 ans. Hérode le Grand, on l'appelle. Ce Hérode-là avait au moins 5 femmes, au moins 14 enfants. D'ailleurs, une de ces femmes s'appelait Cléopâtre. Mais à ne pas confondre avec la Cléopâtre égyptienne. Vous savez, il y avait 12 de Cléopâtres égyptiennes, 10 de Cléopâtres grecques et 1 Cléopâtre juive de Jérusalem. Et c'est celle-là qui était la 4e femme, je crois, de Hérode le Grand. En tout cas, Hérode le Grand, il a tué plusieurs de ses enfants parce qu'il se sentait menacé par eux. Il y a ensuite un autre Hérode, Hérode Antipas. Et c'est celui-ci dont on parle dans Luc chapitre 9. Hérode Antipas était un des fils d'Hérode le Grand. Il était appelé le tétrarque, ça veut dire le souverain. Lorsque Hérode le Grand est décédé, son pays était divisé en 4, et Hérode Antipas, celui-ci, a été nommé roi de la partie nord du pays d'Israël. Hérode Antipas, parmi ses nombreux défauts ou péchés, c'était l'adultère. Et il a pris la femme de son demi-frère Philippe, et cette femme avait une fille qui s'appelait Salomé, et vous savez que Salomé a demandé la tête de Jean-Baptiste. Jésus a appelé Hérode Antipas avant de le rencontrer. Il a comparé à un animal. Vous savez lequel? Renard. Dis à ce renard que le Fils de l'homme va mourir et ressusciter le 3e jour. Mais il y a un autre Hérode. Hérode Agrippa le premier. C'est le neveu de Hérode Antipas. Celui qui est derrière la persécution des chrétiens au début du livre des Actes des Apôtres. Celui qui a donné l'ordre de tuer Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée, dans Actes 12. Celui qui voulait faire mourir Pierre, le frère d'André. Mais lorsque Pierre était en prison, la veille sans doute de sa mort, Dieu a envoyé un ange, et vous connaissez l'histoire dans Actes 12, où Pierre sort de la prison. Et ce roi-là était tellement méchant qu'un jour, lors d'un meeting politique, Dieu l'a frappé. Et il est mort en direct et en public, lors d'une réunion politique, parce qu'il disait n'importe quoi. Et Dieu l'a frappé. Celui-là, il avait un fils, Hérode Agrippa, numéro 2. C'est obligé. Et ce Hérode-là, on parle de lui dans la deuxième partie du livre des Actes. C'était un homme qui avait une relation incestueuse avec sa sœur Bérénice. Celui qui a rencontré l'apôtre Paul, qui a entendu le témoignage de l'apôtre Paul vers la fin du livre des Actes. Et celui qui a dit, peut-être un jour, je vais devenir chrétien. Le mot chrétien apparaît 3 fois dans la Bible, une fois dans Actes 26, une fois dans Actes 13, et une fois dans 1 Pierre 4. Alors, revenons à notre Hérode à nous, Hérode Antipas, donc le 2e sur la liste. Il voulait rencontrer Jésus. Et vous savez pourquoi? Il voulait voir Jésus faire des miracles. Il le dit. Je veux le rencontrer, je veux voir des miracles. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, son vœu était exaucé. Il a rencontré Jésus la veille de sa mort. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il avait beaucoup de questions. Jésus ne lui a rien dit. Jésus n'a rien fait. Au cours de ce temps ensemble, Hérode décide, cet homme est innocent. Il est innocent. Malgré cela, il est fait battre. Et comme nous chantons parfois, comme un agneau en silence, Jésus a accepté cette humiliation, cette interrogation, cette torture, parce qu'il savait que la croix l'attendait. Et nous avons pensé pas mal à la croix ce matin, aux souffrances de Jésus ce matin. Et souffrir en silence, eh bien, il faut être fort pour souffrir sans rien dire. Clarification. Allons au premier verset maintenant. Évangélisation, versets 1 à 6. Jésus envoie ses disciples. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons que Jésus envoie ses disciples dans les évangiles. Nous avons donc ce récit dans Luc 7. Nous avons un récit semblable dans Marc, chapitre 6. Nous avons un récit semblable dans Matthieu, chapitre 10. Et nous avons d'autres récits dans Luc 10, dans Matthieu 28, dans Actes, chapitre 1, de nombreuses fois où Jésus envoie ses 12, où Jésus envoie ses 70, où Jésus envoie ses disciples. Et comme je disais, il les envoie pour parler de lui. Vous savez, on peut définir un chrétien ou un disciple de façon tout à fait simple. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vient écouter le maître. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va parler du maître. C'est ça. Les disciples viennent l'écouter, ils vont parler. Si vous êtes un vrai chrétien, est-ce que vous avez l'habitude d'écouter le maître? Est-ce que vous avez l'habitude, et vous savez, il y a des bonnes habitudes, hein? Est-ce que vous avez l'habitude de parler du maître? Eh bien, Jésus les envoie, et si on compare ces textes dans Luc 9, Luc 10, Matthieu 10, Marc 6, Matthieu 28, Acte 1, on peut faire une petite synthèse. Par exemple, Jésus leur dit, soyez sur vos gardes. Vous serez comme des brebis ou des agneaux au milieu des loups. Et vous n'avez pas besoin que je fasse un dessin. Qu'un agneau avec des loups ne tiendra pas longtemps. Et Jésus veut avertir ses disciples. Faites attention. Soyez sur vos gardes. Car il y a des gens là-bas qui vont vous dévorer, vous attaquer, vous bouffer, vous dire plein de vilaines choses. Il dit aussi, puisque vous allez parler de moi, vous serez rejetés. Votre message sera rejeté. Mais s'il vous rejette, vous, c'est moi, le maître, qui le rejette. Jésus le prévient. Jésus le dit parfois d'aller deux par deux. Jésus leur a dit même, vous allez prier, vous allez guérir les malades. Et même parfois il disait, vous allez oindre d'huile les malades pour les guérir. Vous allez prêcher, vous allez enseigner, vous allez baptiser, vous allez dans la ville, dans la région, dans le pays, vous allez partir dans le monde entier pour parler de la bonne nouvelle du royaume. Jésus leur dit même, vous allez prêcher la repentance. Alors si vous vous demandez, mais c'est quoi la repentance? Bien, la repentance n'est pas seulement le fait de regretter son péché, mais c'est surtout de renoncer à son péché, de se détourner de ses péchés et d'aller dans une nouvelle direction, de changer de direction. Le mot repentance signifie littéralement un changement d'attitude. Et quand quelqu'un se convertit, il change d'attitude envers lui-même, parce qu'il se rend compte, bah oui, je suis pécheur. Je ne suis pas parfait. Il change d'attitude envers Dieu, il se rend compte, mais Dieu m'aime. Dieu, je suis précieux à ses yeux. Il change d'attitude envers ses propres péchés, parce qu'il veut y renoncer, il veut s'en détourner. Et aussi, quand quelqu'un se convertit, il change d'attitude tôt ou tard envers les autres, parce qu'il voit les autres avec des yeux nouveaux. La repentance. Jésus leur dit, allez prêcher, allez, dites aux gens de se repentir. C'est bien. Mais ce qu'on voit dans ce texte de Luc 9 et dans ce que je viens de dire, plusieurs points que j'aimerais souligner. Premier point, c'est que Jésus n'est pas superstitieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que Jésus était là avec combien de disciples? 12. 12 plus 1, ça fait? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être très à table? Est-ce que vous invitez un voisin qui vous dit, rien qui pourrait être 14 à table? Il y a des gens qui disent, je ne suis pas superstitieux, mais je touche le bois. C'est bizarre ça. Mais je peux vous dire que je suis étonné, parfois attristé, de voir qu'il y a certains chrétiens qui gardent une mentalité de superstition. Et la superstition n'a rien à voir avec la foi chrétienne. L'amour parfait bannit la crainte. Même une équipe de foot, vendredi 13, il y a 2 jours, ils ont dit, on a perdu parce qu'on a joué le vendredi 13. Je ne vais pas vous dire de quelle équipe il s'agit, mais si vous connaissez Montserrat, c'est son pays. Mais nous n'avons pas besoin d'être superstitieux, parce que nous avons le Seigneur. Deuxième chose, les disciples sont équipés pour accomplir leur mission. Jésus leur donne autorité et puissance. Il leur dit, vous serez même plus forts que les démons. À l'époque, beaucoup de gens craignaient les démons. Et Jésus leur dit, vous serez plus forts que les démons. Autorité et puissance. Ce qui veut dire que lorsque Jésus leur demande de faire quelque chose, Jésus leur donne de quoi faire ce qu'il lui demande. Et lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, le Seigneur nous équipe. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour chanter dans la chorale, pour accueillir la force, pour enseigner la parole de Dieu aux enfants, et ainsi de suite. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il est toujours prêt à nous donner ce qu'il nous faut pour faire quelque chose. Ce qui veut dire que lorsque vous avez l'impression que le Seigneur est en train de vous demander de faire quelque chose, ne dites jamais, Seigneur, je ne peux pas. Mais changez la lettre P en V, et soyez honnête et dites, Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Et si le Seigneur vous appelle, vous demande et vous équipe, eh bien, dire, Seigneur, je ne veux pas, ou je ne peux pas, n'est pas tout à fait vrai. Le Seigneur nous appelle et le Seigneur nous équipe. Quand il nous demande de faire quelque chose, il nous qualifie et il pourvoit à nos besoins. Malheureusement, dans la suite du chapitre 9, nous voyons que les disciples étaient assez inefficaces dans leur mission. Ils étaient inefficaces parce qu'il y avait un manque d'amour entre eux, parce qu'ils se sont disputés. Vous vous rendez compte, les disciples se disputent. Il y a un manque d'amour entre eux, un manque d'amour pour les perdus et un manque de confiance en Christ. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, nous sommes parfois inefficaces parce que nous ne nous aimons pas. Ou alors parce que nous n'aimons pas les gens à qui nous devons annoncer de bonnes nouvelles. Ou parfois parce que nous avons un manque de foi. Génération incrédule, Jésus dit à ses disciples, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Nous devons croire. Nous devons croire que Dieu pourvoira aussi à nos besoins matériels. Jésus dit, ne prenez pas de sac, ne prenez pas de bourse, ne prenez pas de chéquier, ne prenez pas de carte bleue. Je m'occupe de vos besoins. Dans un autre texte parallèle, Jésus le dit, amenez votre carte bleue, amenez votre bourse, amenez vos sous, amenez des habits. Un jour il dit, ne rien amener, un autre jour il dit, amenez tout ce qu'il vous faut. Comme quoi, nous devons être prudents, sages, quand on veut sortir, faire quelque chose pour le Seigneur. Par exemple, si quelqu'un dit aux anciens aujourd'hui à la fin du culte, Dieu m'appelle à aller en Mongolie. Je prends le train direct de la part de Dieu demain matin jusqu'en Mongolie. J'ai pas encore mon billet, mais je vais aller sur le quai de la gare et je crois que Dieu va pourvoir mon billet. Je n'ai même pas de valise parce que Dieu me dit de ne pas amener de valise. Je n'aurai pas ma carte bleue, je n'aurai rien. Mais Dieu me dit d'y aller. Vous savez ce que les anciens diraient à cette personne? Eh bien, demandez-leur. Mais, c'est sûr, ils ne vont pas dire que Dieu vous bénisse. Il faut beaucoup de prudence, de sagesse, de bon sens. Quand Dieu nous appelle, on doit y aller par la foi, c'est sûr et certain. Mais il faut beaucoup de bon sens et de sagesse et de bons conseils. Une troisième remarque, les disciples sont avertis. Tout le monde ne va pas vous accueillir à bras ouverts. Tout le monde ne va pas vous dire, ah, vous parlez de mes péchés. Merci beaucoup. Vous savez, nous avons fait beaucoup d'évangélisation dans la Sarthe. Et je peux vous dire que quand on a commencé une église au Mans, il y avait peu de gens, d'ailleurs, personne qui nous a dit, ah, c'est formidable de vous voir ici dans notre ville pour nous évangéliser. Quand on est allé dans la sous-préfecture de la Flèche, c'était à l'époque Opération Mère de France, où la Fédération évangélique de France voulait donner un nouveau testament à chaque maire et à chaque député. Eh bien, quand on est allé voir le maire et le député dans notre circonscription, je peux vous dire que personne de ces deux-là nous a dit, « Ah, David, viens voir un coup, c'est formidable !» Non, ils ont pris le nouveau testament, parfois ils nous ont reçus dans le couloir de la mairie, parce qu'on n'était pas dignes d'aller, ou assez important pour aller dans leur bureau. Mais ce n'était pas important pour nous. L'essentiel était de donner un exemplaire du Nouveau Testament. D'ailleurs, quand on est allé voir le maire, il nous a dit, mais monsieur Soutaland, vous êtes, il n'a pas dit béni, mais il dit plus ou moins, vous avez de la chance, même si un chrétien n'a pas de chance. Il a dit, vous avez de la chance, parce que là où vous habitez à 100 mètres de chez moi, c'est vrai. Il dit, et vous habitez à 100 mètres de chez le psychiatre. Il dit, vous avez de la chance. Et de, ah, bah oui, c'est vrai. Nous avons rencontré le psychiatre, nous n'avons pas donné un Nouveau Testament au psychiatre, mais le jour où sa femme nous a écrit pour demander une Bible, on a dit, mais il faut qu'on prie pour ce médecin. Parce que sa femme sait que son mari, médecin psychiatre, ne peut pas le dire. Mais elle a pris le Nouveau Testament qu'on lui a offert, mais encore, elle n'a pas dit, oh, c'est formidable. Mais nous sommes là pour semer. Vous êtes là, en tant que chrétien, pour parler de votre foi. Même si les gens ne vous reçoivent pas à bras ouverts, même si les gens se moquent de vous, ou vous rejettent, ou ne veulent pas votre évangile, ou ne veulent pas vous écouter, eh bien, le Seigneur vous demande de prier, de semer et de prier, même si vous n'êtes pas entendu, même si vous n'êtes pas écouté. Les disciples aussi ne devaient pas craindre l'activité démoniaque ou diabolique. Déjà, je disais tout à l'heure que les disciples avaient reçu l'autorité sur le diable, sur les démons. Mais encore, c'est un domaine où je trouve que parfois des chrétiens sont un peu peureux, voire superstitieux par rapport aux démons, par rapport au diable. Et là, on pourrait parler longtemps de quelques expériences que nous avons eues avec des gens, avec des maisons, avec des ambiances où on a vu le Seigneur à l'œuvre. Mais nous devons vivre sans peur, mais en même temps avec une grande prudence par rapport à tout ce qui est démoniaque et diabolique. Donc, les chrétiens reçoivent une mission claire, un mandat clair. Allez prêcher la bonne nouvelle. Alors, si je devais demander à trois personnes de venir devant ce matin pour nous résumer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous diriez pour résumer la bonne nouvelle? On peut citer 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il était enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est un résumé de l'Évangile. Un autre résumé de l'Évangile, 1 Jean 4, 4. Le Père a donné son Fils comme sauveur du monde. Ou dans une autre version, le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Un autre résumé de la bonne nouvelle, Romains 5, 8. J'ai un trou là. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Des résumés de la bonne nouvelle, des résumés de l'Évangile. Et lorsque nous avons l'occasion de témoigner, nous pouvons, même nous devons citer un verset par-ci, par-là. Mais tout en ayant beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, beaucoup d'amour. Quand on témoigne dans notre foi, nous avons des choses à expliquer. La raison pour laquelle nous avons besoin d'être sauvés. Quelle est la raison? On est pécheurs. Nous devons expliquer le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Par la foi en Christ. Ce que nous devons faire pour être sauvés. Croire. Accepter le cadeau que Jésus nous offre. Et nous devons expliquer ce que cela implique d'être sauvé, d'être chrétien. Parce que se convertir, c'est une chose, mais il y a toute une vie. J'allais dire derrière, mais peut-être que je devrais dire devant. Derrière cette phrase et devant nous, il y a toute une vie qu'on doit expliquer. Nous avons des choses à expliquer. Nous avons des choses à dire. C'est pour ça que Jésus a envoyé ses disciples aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus dit à chaque chrétien, soyez des témoins. C'est pour ça que Jésus dit à chaque église, évangélisez, évangélisez, évangélisez. Nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes. Par contre, nous sommes tous appelés à être des témoins. Témoigner de ce que nous savons, témoigner de ce que nous avons reçu, témoigner de ce que nous avons vu, et parler avec sincérité, simplicité et sagesse. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Les gens vont écouter nos paroles, mais ils vont surtout regarder notre vie. Et c'est ça qui compte. Pas seulement nos paroles, mais notre vie. Je pense que je vais terminer là, mais je vais terminer en vous racontant ce qui s'est passé dans une église protestante évangélique, un peu comme l'église de Sonora. Il y a quelque temps, ils ont eu une assemblée générale, et lors de l'assemblée générale, quelqu'un a proposé qu'on mette un verset biblique devant la salle. Et ils ont dit, d'accord, ok, on va discuter, mais quel verset biblique est-ce qu'on pourrait mettre devant la salle, sur la devanture? Et ils ont dit, mais après 2 heures de discussion, ils ont décidé, on va mettre le verset 1 Corinthiens 1:23, nous prêchons le Christ crucifié. Ah, tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord. Donc, ils ont fait mettre ça en grosses lettres, et puis l'assemblée générale suivante, l'année après, le chrétien arrive à l'église, et se rend compte que le lierre avait poussé, il avait caché le mot crucifié. Donc, ils disent, nous prêchons le Christ. Ah ben, c'est pas grave, le lierre c'est joli, on laisse le mot crucifié caché. On ne veut pas choquer les voisins d'une façon, parce que si on parle de la mort, c'est pas joli. L'année suivante, ils se rendent compte que le lierre avait poussé et avait caché les mots le Christ. Ben, nous prêchons. Ben, c'est bien, c'est pas grave, on ne veut pas parler du Christ parce que ça va choquer les uns, ça va choquer les autres. Il faut rester politiquement correct. Nous prêchons, c'est bien. L'année suivante, le lierre avait poussé et ça a caché le mot prêchons. Et ça a laissé nous. Et là, ils ont dit, mais peut-être on devrait couper le lierre. Parce que si on parle que de nous, on va souffrir de nombrilisme et de beaucoup d'autres ismes Et là, c'est fini. Une église qui ne pense qu'à eux, qu'à nous, on est voué à la mort. Et malheureusement, je pourrais vous citer des noms d'églises qui ont pensé qu'à eux et qui sont mortes aujourd'hui, qui ont disparu. Mais nous voulons prêcher, nous voulons parler, nous voulons annoncer, nous voulons publier Christ crucifié, Christ ressuscité. Que le Seigneur nous aide à avoir les bonnes priorités, que le Seigneur nous aide à ne pas parler de nous, mais de lui. Que le Seigneur nous aide à nous aimer les uns les autres, à aimer les perdus, qui nous aide aussi à être sûrs que nous sommes à lui et que nous avons un beau message à partager. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la puissance de la croix. Nous te remercions pour la puissance de la bonne nouvelle. Nous te remercions pour la puissance de ta parole comme une épée qui transperce les cœurs. Ô Seigneur, nous prions que s'il y a des non-chrétiens ce matin, que leur cœur soit transpercé par ton épée pour qu'ils plient le genou devant toi. Et nous te prions de nous aider à manier l'épée dans notre témoignage. Donne-nous la sagesse pour savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Aide-nous à témoigner par notre vie et par nos paroles, afin que d'autres personnes puissent saisir la vie éternelle et croire en Jésus. Merci pour le Fils de Dieu qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.